France Inter.
Merci Luc. Le prochain flash dans une heure à 17h sur France Inter.
La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Clotilde Le Guil.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre exploration du consentement depuis la dimension de l'inconscient. C'est sur un étrange proverbe que je voudrais revenir dans cette émission, un proverbe qui parle du consentement et du silence. Un proverbe qui semble définir le consentement par le silence. Un proverbe qui prétend dire ce qu'est le consentement depuis le fait de ne dire mot. Vous l'avez certainement entendu, ce proverbe, et il est bien souvent employé. Qui ne dit mot consent. Étrange affirmation dont on ne sait pas depuis quel lieu elle est prononcée ni par qui. Il manque en effet un sujet qui dit en son nom et qui s'avance lui-même. Quelle étrange interprétation du silence, non ? Mais alors attendez. Peut-être que pour saisir cet aphorisme, il faut tout simplement se souvenir que le mot de consentement dans son histoire trouve un premier usage oublié qui est celui de donner l'autorisation. On pourrait se dire que dans le sens premier du consentement, qui était d'abord celui d'une autorisation donnée par un père, par un maître, par Dieu, en effet, le « qui ne dit mot » pouvait signifier « consentement » au sens d'accord et d'autorisation, au sens de « ne pas s'opposer à » et donc « laisser faire ». Mais en est-il de même si le consentement n'est plus celui donné par une autorité, mais le consentement du sujet lui-même ? Peut-on encore dire « qui ne dit mot consent » lorsqu'il est question du silence d'un être qui ne parvient pas à répondre de la situation qu'il rencontre, lorsqu'il est question d'un mineur, par exemple, placé face à la demande d'un autre, exerçant un ascendant sur lui, lorsqu'il est question d'une petite fille de 9 ans, comme Neige Sino, face à un beau-père qui veut lui apprendre la sexualité, peut-on dire qui ne dit mot consent ? Lorsqu'il est question d'une emprise où le sujet se voit comme placé sous une telle influence qu'il n'a pas les moyens de répondre. N'y a-t-il pas une façon de ne pas dire mot qui renvoie au fait de se sentir prise au piège ? Dire qui ne dit mot consent ? Dire qui ne dit mot consent ? N'est-ce pas une façon de faire oublier que l'on peut ne dire mot sous l'effet de la peur, de l'angoisse et même quelquefois de l'effroi ? Ou alors est-ce pour faire croire que dire oui, une fois, sans toujours savoir à quoi ni à qui on a dit oui, enjoint ensuite à obéir à tout ? Est-ce pour dire que ce oui est irréversible parce qu'on est allé trop loin déjà ? Je vais donc vous parler aujourd'hui de ce point de bascule où le sujet ne dit mot, non pas parce qu'il consent, mais parce qu'il a cédé à une situation à laquelle il ne peut pas répondre, plus répondre. Je vais interpréter l'aphorisme « qui ne dit mot consent » depuis un autre aphorisme « céder n'est pas consentir ». Je vais remonter le temps avec vous. Remonter jusqu'aux origines de la psychanalyse en 1895, à un premier cas de Freud, le cas Emma. Avec cette jeune fille, Freud découvre la logique du traumatisme et donne un sens inédit à l'aphorisme « qui ne dit mot consent ». Mais je vais aussi vous parler des mots de Neige Sino, de la façon dont l'écrivaine nous confronte au triste tigre qui a mis la main sur elle. Elle pose la question. Un enfant qui ne résiste pas, qui ne court pas chercher du secours, qui ne s'oppose pas à son agresseur en le griffant au visage, est-ce à dire qu'il consent à ce qu'on lui impose ? C'est ce qu'elle écrit à la page 145 de Triste Tigre. Peut-être que notre moment et notre actualité qui démasquent les tristes tigres peuvent alors se voir éclairés par ses premiers pas de Freud, découvrant le traumatisme comme événement qui fait basculer la vie d'un sujet.
L'inconscient, avec Clotilde Le Guil, sur France Inter.
Revenons à Freud et à ses premiers pas dans la découverte de la causalité psychique inconsciente du traumatisme sexuel. Il ne faut pas oublier l'origine de la psychanalyse, car ses premiers pas sont aussi ceux de l'âge d'or de la psychanalyse. Freud avance dans un territoire inconnu et quelquefois aussi remet en question ensuite ce qu'il a avancé, puis revient. Qu'est-il arrivé à Emma ? Emma jeune fille, Emma petite fille, Emma amnésique, Emma qui ne sait plus qui elle est, ni pourquoi elle est en proie à l'angoisse. Emma perdue dans le temps, Emma angoissée, Emma qui voudrait bien savoir pourquoi, mais elle a tout oublié. Alors elle ne sait plus. Ce qui est arrivé à Emma a à voir avec le silence. Il lui est arrivé une étrange expérience où elle s'est laissée faire sans rien saisir de ce qui lui était imposé alors. Si on peut quelquefois se laisser faire en étant pleinement consentant, si on peut aussi se laisser faire en étant angoissé, on peut encore se laisser faire d'une autre façon, en cédant à l'effroi. Dans l'expérience traumatique, le « se laisser faire » ne renvoie jamais au consentement. Parce qu'en cette région, il n'y a plus aucun sujet pour consentir à quoi que ce soit. Vous allez le voir. Plonger avec le sujet lui-même dans ce moment qui précède le trauma, c'est faire un arrêt sur image en cet endroit où le sujet se laisse faire par l'autre, soit ne parvient plus à répondre. Je veux plonger avec vous dans ce moment trouble et obscur, où le sujet n'est plus en mesure de consentir ou pas. C'est en ce lieu que le « qui ne dit mot consent » doit être contredit. Car le silence prend un autre sens, le sens de ne plus pouvoir rien dire, le sens d'être coupé du monde de la parole du fait de l'effraction que produit la situation traumatique dans le corps du sujet, le sens d'une pétrification. Lorsque c'est arrivé, elle n'avait que 8 ans. Elle n'a rien pu dire. Elle s'est laissée faire en silence. Emma est une petite fille qui aime les friandises. Comme il arrive quelquefois, elle sort faire une course. Elle porte une petite robe, une robe de petite fille de 8 ans. Elle entre seule dans la boutique de l'épicier car elle veut s'acheter des bonbons. Elle sait que l'épicier vend des bonbons. Elle entre alors toute seule avec sa petite robe de petite fille de 8 ans. Et là, se produit ce à quoi elle ne pouvait aucunement s'attendre. Même pas le temps d'être angoissée. C'est arrivé et elle n'a rien pu dire. Le marchand l'a regardée, et peut-être même qu'il lui a souri, d'un drôle de sourire de vieil homme alléché par la petite créature qui vient de rentrer de son plein gré dans son épicerie. Pourquoi se priver de plaisir ? Que fait le vieil homme ? Il la trouve sans doute jolie, et aussi si innocente de venir là seule pour s'offrir ses petites friandises. Il va lui faire goûter autre chose, sans qu'elle n'y comprenne rien. Soudain, alors que la petite fille se tient là, devant lui, avec ses bonbons dans la paume de sa main, lui s'approche et porte la main à travers l'étoffe de sa robe sur ses organes génitaux. C'est ce qu'écrit Freud dans La naissance de la psychanalyse. Emma est pétrifiée. Peut-on dire qu'elle s'est laissée faire ? Elle n'a rien dit, pas bougé, immobilisée par ce qui se produit là. Pas eu le temps sans doute de partir en courant, surtout elle n'a rien compris. Le temps de l'angoisse a été court-circuité. Ce temps qui est aussi le signal d'un danger. Ce temps n'a pas eu lieu. L'angoisse n'a pas été éprouvée. Elle n'était même pas inquiète avant d'entrer dans la boutique, puisqu'elle était contente d'y aller justement pour se procurer ses friandises qu'elle aimait tant. Est-elle allée chez l'épicier en cachette ? Avait-elle dit à sa mère ou à son père qu'elle s'y rendrait ? Peut-être pas. Peut-être même qu'elle n'a rien dit à personne et que c'est aussi pour cela qu'elle s'est retrouvée prise au piège. Elle venait chercher son petit plaisir d'enfant, des bonbons. Peut-être avait-elle même dérobé une petite pièce dans le porte-monnaie maternel pour se procurer secrètement les moyens d'acheter les friandises qu'elle adorait. Toute seule, sans défense, sans protection, elle se retrouve sous le joug d'un adulte qui voit dans la situation l'occasion d'assouvir une pulsion. Toucher les organes génitaux de la petite fille à travers sa robe. Elle se laisse faire. Freud a rencontré Emma alors qu'elle était déjà jeune fille et qu'elle était hantée, écrit-il, par l'idée qu'elle ne doit pas entrer seule dans une boutique. Sans bien savoir pourquoi. C'est ce qui lui reste maintenant qu'elle a grandi, que son corps s'est transformé. C'est ce qui lui reste de ce qui a eu lieu un jour alors qu'elle n'avait que 8 ans. Ce dont se souvient la jeune fille qui s'adresse à Freud, c'est d'un autre épisode qui lui est arrivé lorsqu'elle avait 13 ans. C'est un souvenir qui renvoie pour elle à un passé plus récent et aussi à un moment de sa vie où son corps était déjà pubère. Elle savait alors qu'elle n'était plus une enfant et qu'on pouvait la regarder avec du désir. Ce souvenir de ses 13 ans a aussi à voir avec une histoire de boutique où elle était entrée et où quelque chose d'étrange est arrivé. Elle se souvient qu'elle avait pénétré dans une boutique à l'âge de 13 ans pour y acheter quelque chose, mais elle s'était enfuie en courant. Bizarre. Il ne s'est pourtant rien passé dans la boutique, si ce n'est que les deux vendeurs l'ont regardée en riant. Y avait-elle en elle quelque chose de risible ? Sa tenue ? Sa robe ? Son corps ? Emma est sortie de la boutique paniquée. Elle s'est sentie humiliée. Les deux hommes semblaient se moquer d'elle, de sa tenue, de sa robe. Cela l'a d'autant plus gênée que l'un d'eux lui est apparu comme un homme séduisant. Emma a fui. Freud souligne le caractère énigmatique du symptôme d'Emma. Être hantée par l'idée de ne surtout pas entrer seule dans une boutique et se souvenir de ces deux vendeurs qui se sont esclaffés en la voyant à 13 ans. Cela ne suffit pas pour rendre compte de cette angoisse qui la saisit à chaque fois qu'elle entre seule dans une boutique et surtout pour expliquer cette idée fixe. Qu'est-ce que cette hantise ? En parlant à Freud, Emma va un jour se souvenir de ce qu'elle avait oublié jusque-là, ce qui est arrivé à son corps d'enfant. C'est en retrouvant un autre souvenir qui renvoie à l'épisode traumatique qui s'est produit lorsqu'elle avait 8 ans, qu'Emma peut commencer à dénouer son symptôme. À 13 ans, elle ne s'était pas du tout rappelée que la scène qu'elle venait de vivre avec les deux vendeurs faisait écho à une autre scène, plus ancienne, qui l'avait laissée sans voix. Mais de parler à Freud de cette histoire de boutique, de vêtements, de vendeurs, a fait remonter à la surface ce qu'elle avait oublié. Cela lui a permis de défaire les nœuds du temps. Son nœud à elle, où le premier événement s'était camouflé dans le second, comme pour se rappeler à elle, tout en se laissant oublier par elle. De quoi se souvient-elle alors ? Non seulement elle se souvient de la première fois, celle où l'épicier a porté la main sur ses organes génitaux à travers sa robe, mais elle se souvient d'autre chose, de tellement étrange. Ce qu'elle peut dire à Freud, c'est qu'elle était entrée dans la boutique 2 fois. Et c'est bien dès la première fois que l'abus s'est produit. Pourquoi est-elle retournée une seconde fois dans la boutique ? Freud écrit, par la suite, elle se reprocha d'être revenue chez ce marchand comme si elle avait voulu provoquer un nouvel attentat. Elle est entrée une seconde fois dans la boutique en sachant. Si la première fois a pu se produire parce qu'elle ne savait pas, la seconde fois la confronte au mystère de ce qu'elle savait. Mais comment lire ce retour sur les lieux du traumatisme ? Est-ce Freud d'ailleurs qui ajoute « comme si elle avait voulu provoquer un nouvel attentat » ? Ou est-ce elle, Emma, qui se pose la question du « pourquoi elle y est retournée ?» Ce que l'on sait, c'est qu'elle est retournée sur les lieux du traumatisme, là où son corps a subi l'effraction qui l'a laissée muette. Ce que Freud veut démontrer porte d'abord sur la levée de l'amnésie. Comment un souvenir refoulé peut-il être retrouvé par l'analyse? Comment ce qui n'a jamais été dit jusque-là en vient-il à pouvoir être ainsi enfin révélé? Pas seulement à l'autre, mais à elle-même. Car c'est toujours d'un silence qu'il s'agit avec le trauma. Le sujet n'a rien pu dire sur le moment. Et il ne peut rien dire non plus après. Comme si sa bouche s'était cousue sur l'événement, irréversiblement. C'est donc au processus de refoulement du premier souvenir que Freud s'intéresse et à ce mécanisme d'après-coup qui montre la nécessité d'une seconde scène pour que la première revienne à la surface. Quelles sont les voies qui ont permis de retrouver le premier temps du trauma? Le second épisode, survenu alors qu'elle a 13 ans, répète quelque chose du premier sans être identique. Mais lorsque ce second épisode se produit, elle ne se souvient pas du premier. C'est le fait de parler du second épisode à Freud, de se laisser aller à dire ce qui lui traverse l'esprit lorsqu'elle songe à cette hantise d'entrer dans une boutique seule, qui l'a conduit par hasard à retrouver le premier souvenir effacé. Emma retrouve à travers le second souvenir des échos du premier. La boutique, le fait d'entrer seule, le vêtement, les rires des vendeurs qui seraient relatifs à sa tenue et un effet dans le corps. L'un des vendeurs lui apparaît séduisant. Ce qui retient l'attention de Freud, c'est cette dualité temporelle. Il écrit ainsi « Un souvenir refoulé ne s'est transformé qu'après coup en traumatisme ». L'après coup, Nachträglich en allemand, et ce moment où le traumatisme premier se réalise à travers un second événement. La scène de ses 13 ans revenue à la mémoire d'Emma constituera après coup la première scène marquée d'abord d'un blanc en traumatisme. Ce qui a manqué au premier épisode, c'est le surgissement de l'angoisse. À la place de l'angoisse, la court-circuitant, il y a eu un effet d'intrusion dans son corps. L'enfant a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, tout en étant privée de parole, car il y a eu effraction. Silence, amnésie, effraction, tels sont les trois traits du traumatisme sexuel. L'angoisse est apparue longtemps après et s'est transformée en symptôme. Être hanté par l'idée de ne surtout pas entrer seul dans une boutique. Le traumatisme résulte du moment où l'enfant s'est laissé faire. Mais lorsque c'est arrivé, elle n'était pas là en tant que sujet. C'est son corps qui a subi quelque chose qu'elle n'a pas compris. La question que je voudrais me poser alors maintenant avec vous est celle de la seconde fois. Pourquoi l'enfant de 8 ans est-elle retournée dans la boutique alors qu'elle avait été victime de cet abus? Comment interpréter cette répétition? Ce que dit Freud, c'est qu'Emma se reproche d'y être retournée comme si elle avait cherché à ce que cela recommence. C'est en effet une énigme. Freud, en 1897, ne dispose pas encore de la théorie de la répétition pulsionnelle. C'est seulement 20 ans plus tard, dans son article sur « Au-delà du principe de plaisir », qu'il pourra articuler la pulsion et la répétition et rendre compte de ce retour, de ce qui revient dans le corps sans le sujet. Pourquoi Emma y retourne-t-elle alors? Il y a eu le temps premier d'un « se laisser faire » face auquel elle était sans défense aucune. Et il y a eu le temps second d'un « y retourner » comme premier effet du trauma. Mais c'est le pourquoi de ce retour qui est à explorer, car c'est là que se tient la différence fondamentale entre céder et consentir. Y retourne-t-elle pour se laisser faire à nouveau? Je ne l'interpréterai pas ainsi. La petite fille de 8 ans y retourne cette fois-ci en sachant ce qui peut se produire là-bas, même si elle ne peut rien en dire. C'est un savoir qui vient de son corps. Mais peut-être cette impossibilité de dire a-t-elle un lien avec le retour ? Elle y retourne en ne sachant pas ce qu'elle a perdu. Or, lorsqu'on a perdu quelque chose quelque part, sans savoir quoi, que fait-on ? On retourne sur les lieux pour essayer de savoir ce que l'on a perdu et peut-être pour le récupérer. Ce qui est certain, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose et qu'elle ne peut revenir en arrière. Ce retour est de l'ordre d'une répétition des conditions de ce qui a eu lieu, comme pour comprendre. Après ce temps de voir traumatique, elle y retourne pour voir encore ce qu'elle n'a pu comprendre. Alors voilà, je dirais qu'elle y retourne pour récupérer ce qui lui a été arraché. Un émoi dans le corps, avant même que ce corps soit pubère. Là où il n'y a pas eu pour l'enfant de 8 ans de possibilité de se mouvoir lorsque l'épicier a approché sa main de son corps, il y a maintenant mouvement vers le lieu où elle était restée pétrifiée. Ce mouvement peut être lu comme une commémoration du trauma. Ce qu'elle va retrouver, ce n'est pas l'épicier qui a touché ses organes sexuels derrière sa robe de petite fille. C'est la scène qui l'a privée de voix. Cette logique concerne la perte qui a marqué le corps de l'enfant. Elle y retourne justement, car le traumatisme est resté au niveau de l'effraction dans le corps. C'est aussi ce retour de la scène traumatique qui hante Neige Sino, à propos de son beau-père qui a fait intrusion une première fois la nuit pour venir toucher son corps, à l'abri des yeux de tous, de sa mère, de sa petite sœur. Elle écrit ainsi dans Triste Tigre. Après, une fois que ça a commencé, une fois qu'on est passé à l'acte, c'est trop tard, c'est fait. Il n'y a aucune barrière, personne pour vous aider. On ne peut pas en parler. Donc, ça continue. On recommence, encore et encore. Jusqu'à ce que la victime, des années plus tard, finisse par s'évader. Le se laisser faire du traumatisme engendre une répétition pulsionnelle avant même de se constituer en traumatisme pour le sujet. Lorsque le sujet cède, il est comme prisonnier de l'effraction qui lui a arraché son corps. Ce n'est que bien des années plus tard, à 13 ans, qu'Emma éprouvera l'angoisse qu'elle n'a pu éprouver à 8 ans. C'est la signature du trauma, cette angoisse après coup. Ce n'est aussi que bien des années plus tard que Neige Sino, devenue une jeune adulte, pourra dire ce qui a eu lieu à sa mère et que celle-ci la croira. Alors, qui ne dit mot consent ? Vraiment ? Être voué à y retourner, comme pour retrouver la parole perdue à l'endroit de l'abus, n'est pas consentir. Qui ne dit mot ? Ne comprend pas ce qui s'est produit et cherche à retrouver ce corps qui a été éveillé trop précocement à un émoi qui laissera le sujet plus tard dans l'angoisse. En deçà de l'angoisse, qu'y a-t-il ? Peut-être le dégoût de son propre corps qui a été ainsi instrumentalisé par l'autre. Peut-être une indifférence pour la transformation de ce corps qu'elle a dû reconnaître comme le sien au moment où il lui était le plus étranger. Neige Sino écrit à la page 145 de Triste Tigre. Un enfant qui ne résiste pas, qui ne court pas chercher du secours, qui ne s'oppose pas à son agresseur en le griffant au visage, est-ce à dire qu'il consent à ce qu'on lui impose ? Non, il ne consent pas, il cède à la situation. À quoi le sujet cède-t-il dans le traumatisme sexuel et psychique au fond ? Jacques Lacan, un demi-siècle plus tard après Freud, forge une formule qui permet de rendre compte de l'événement traumatique. Cette formule de Lacan permet aussi de donner un sens fort à l'aphorisme « céder n'est pas consentir ». Le sujet ne cède pas tant à l'autre qu'à une situation traumatique dont il ne peut se défendre. Il cède à ce qui se produit en son corps. Le danger est là, présent, mais l'angoisse qui aurait pu le signaler n'a pas eu le temps d'être éprouvée, de s'installer, que déjà l'effraction a eu lieu. C'était trop tôt, et c'est déjà trop tard. Ce à quoi le sujet cède, c'est ce qu'il cède de lui-même, ce qui lui est arraché de sa façon d'être un corps vivant, qui éprouve, qui s'émeut, qui ressent. Une part de son corps lui est comme arrachée sans son consentement. Et c'est le monde de l'autre qui se fracture en même temps. Comme en un tremblement de terre, le sujet éprouve un séisme qui le fait chuter et disparaître. Cette intrusion brutale de l'autre, via le regard, la voix, via une parole qui déchire le voile qui recouvre le monde des liens à l'autre, vise l'être et la jouissance. Le corps de l'autre lui-même impose sa pulsion et force l'accès à la jouissance. C'est là la cause déterminante du traumatisme sexuel et psychique. Forcer l'accès à la jouissance. Ce qui signifie que c'est à la fois la jouissance de l'autre qui s'impose, mais que c'est aussi ma propre jouissance qui est comme arrachée à un corps que j'ai déjà perdu. Lacan affirme donc ceci dans son séminaire sur l'angoisse. Dans cette confrontation radicale, traumatique, le sujet cède à la situation. Il s'agit donc d'une confrontation, non pas seulement à l'autre, mais à une situation que le sujet ne peut vivre comme sujet, parce qu'il n'en a pas les moyens psychiques et physiques. La situation traumatique agit comme un rapt. Lacan se pose la question en 1963 dans son séminaire de l'angoisse de ce que veut dire « à ce moment, cède ». Ce n'est pas, dit-il, que le sujet vacille ni qu'il fléchisse. Ni vacillement ni fléchissement, mais cession. Ce qui se produit alors n'en passe pas par la parole. Quelque chose du sujet s'est figé dans la situation. Lacan dit ainsi, dans une situation dont le figement met devant nos yeux le caractère primitivement inarticulable et dont il restera marqué à jamais, ce qui s'est produit est quelque chose qui donne son sens vrai au cède du sujet. C'est littéralement une cession. Figement. Caractère inarticulable de la situation traumatique, marque à jamais de l'événement sur le corps. Cession. C'est bien aussi ce que décrit Neige Sinnot, explorant le gouffre qui s'est creusé en elle suite à l'abus répété qu'elle a subi de la part de son beau-père alors qu'elle était enfant puis toute jeune adolescente. Comment se souvenir de ce qui a fait cession? Comment le dire? Elle écrit ainsi, page 140 de Triste Tigre. Plus on est loin des faits, plus les faits sont impensables, plus il est difficile de compter avec la fidélité des souvenirs. C'est paradoxal, car en dépit de l'évidente imprécision de la mémoire individuelle, le souvenir traumatique est très inscrit. Il a tendance à se répéter comme un film, qui surgit même parfois de manière involontaire, dans des moments d'abandon, dans des rêves. Quelle est cette inscription qui a marqué le corps et que nous décrit Neige Sinnot? C'est celle qu'a laissée la situation traumatique. Quelque chose du vivant du corps est comme capté, extorqué, arraché au sujet. Il ne parvient plus à se dégager. Ce qui est à souligner ici, c'est que ce rapt n'est pas seulement dû à une force physique contre laquelle je ne peux me défendre, ce qui est aussi à prendre en compte dans la situation traumatique, mais qu'en deçà, ce rapt est dû à une déflagration qui touche le corps de telle façon, que le sujet est comme séparé de ce corps. Il ne peut plus le mouvoir. Le sujet est à la fois réduit à son corps, pris au piège de la situation traumatique et contraint à céder quelque chose de son corps. Le silence n'est alors pas celui d'un consentement secret, mais celui qui signe l'impossibilité pour le sujet de répondre de la situation à laquelle il est confronté. Car, comme l'écrit Neige Sino, c'est toujours grand ouvert chez un enfant. Un enfant ne peut pas ouvrir ou fermer la porte du consentement. Il n'atteint pas cette poignée. Elle n'est simplement pas à sa portée. Peut-on être marqué à jamais par un événement traumatique? Non seulement cela peut arriver, mais c'est même le propre du traumatisme psychique et sexuel. C'est même le propre du traumatisme tout court. Un trauma est de l'ordre d'une effraction qui laisse une trace qui ne peut être effacée, indélébile. Tenter d'en dire quelque chose, c'est alors renouer avec le consentement. Le consentement à dire, consentir à dire, consentir à écrire, ce n'est pas seulement en parler, c'est tenter de faire quelque chose de ce silence, de cet indicible. C'est démontrer aussi que le « qui ne dit mot » ne relève en rien du consentement. Mais c'est démontrer aussi que le silence peut être traversé. Ici s'achève ce 9e épisode sur les consentements, les silences, l'énigme du consentement et l'épreuve de l'événement traumatique. Restez à l'écoute, dans un instant je répondrai à toutes vos questions, mais tout de suite, voici Vampire Weekend, Capricorne sur France Inter.
Finish fast, and the next one was. drifting through centuries, the moments of your own.
Sur France Inter dans l'inconscient, c'est à vous maintenant. Je vous écoute.
Bonjour, Jennifer à l'appareil. Bonjour Clotilde. Vous terminez votre podcast par les mots suivants. Consentir à dire, à écrire, ce n'est pas seulement en parler, c'est tenter de faire quelque chose de ce silence, de cet indicible, c'est démontrer aussi que le silence peut être traversé. Vous faites référence dans votre podcast à Neige Sino et à Vanessa Springora, qui ont écrit toutes les deux un livre pour relater leur histoire. Donc voici mes questions. Qu'apporte selon vous le fait d'écrire sur son passé traumatique? Et est-ce nécessaire pour achever un chemin de guérison et d'acceptation d'écrire? Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Au revoir.
Merci Jennifer pour cette question autour de l'articulation finalement entre l'écriture, la pratique de l'écriture et le traitement des effets du trauma. Effectivement, l'écriture peut être une façon, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers la référence à Triste Tigre de Neige Sino, l'écriture peut être une façon de traiter ce qui vous a coupé la langue, au fond ce qui vous a laissé dans un silence et confronté à une forme d'impossible, d'impossibilité de dire, d'impossibilité de faire entrer dans l'histoire l'événement traumatique. Mais en même temps, je dirais que l'écriture n'est pas nécessairement une solution universelle à la question traumatique. Ça ne peut pas être une solution pour tous. Écrire, c'est une solution très singulière, c'est un choix très très intime et très singulier qui peut permettre à certains sujets de s'extraire, au fond, de ce qui est venu les faire chuter dans un trou. Mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de saisir, lorsque ce choix de l'écriture est fait, en quel sens l'écriture, qui est aussi une forme de silence, parce que quand on écrit, on est aussi dans le silence. Et d'ailleurs, quand on lit, en tant que lectrice, en tant que lecteur, on est aussi dans le silence. Eh bien, en quel sens la pratique de l'écriture et la pratique de la lecture peuvent venir traiter quelque chose du trauma? Et je dirais que ce qu'il y a très intéressant, à mon sens, dans l'écriture, c'est que c'est un nouveau rapport aussi à la voix, puisque finalement, écrire, c'est faire résonner quelque chose d'une voix singulière qui va ensuite plus ou moins faire écho en chacun. Et finalement, on peut aussi bien traiter quelque chose d'un événement traumatique en lisant l'écrit d'un autre. Et je crois que cela explique aussi peut-être pourquoi est-ce que des récits comme ceux de Vanessa Springora, de Neige Sino, parviennent à toucher quelque chose de si intime en chacun.
Bonjour, je suis Gabrielle et j'ai écouté avec intérêt votre émission sur Qui ne dit mot consent. Et j'ai remarqué en vous écoutant que lorsque j'entends cette expression, malgré moi, j'entends toujours « qui ne dit mot consent », c'est-à-dire qui ne dit aucun mot que l'on puisse sentir. Et c'est intéressant parce que cela revient à se demander si ceux qui disent ce proverbe, est-ce que ce ne serait pas des gens qui n'entendent pas, en fait, ce refus, ce non-consentement, qui n'entendent pas ces mots parce qu'ils ne sont pas suffisamment forts pour qu'on puisse les sentir. Voilà. Bonne journée.
Merci Gabrielle pour cette question qui est aussi finalement qui témoigne d'une écoute particulière de cet aphorisme qui ne dit mot consent. Vous faites résonner dans le qui ne dit mot consent le verbe sentir. Ça, vous avez pensé finalement à la question du sentir et à la question du sentiment, au fond à la question de l'éprouver. Et ce que m'évoque votre remarque, finalement, c'est le sens étymologique du consentement. C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant que vous ayez entendu ça, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose aussi de l'étymologie des mots qui, quelquefois, ressurgit dans la façon dont on les entend. Et l'étymologie de consentement, c'est justement cum sentire. C'est une étymologie latine et cum sentire, cela veut dire sentir avec, se sentir au fond à la fois avec l'autre mais aussi en accord avec ce qui se produit dans la rencontre avec l'autre et en son corps. Et en effet, le consentement n'est pas, en tout cas en matière de vie amoureuse et sexuelle, une simple affaire rationnelle, ce n'est pas une simple affaire de raison et de volonté libre et éclairée. Je dirais même qu'en matière de vie amoureuse et sexuelle, il n'y a pas véritablement de consentement éclairé, au sens où la vie amoureuse, avec les risques qu'elle comporte pour chacun, elle implique toujours le désir, la jouissance, elle implique toujours le corps. Et donc, d'un côté, il n'y a pas de consentement éclairé, et d'un autre côté, en effet, vous avez raison, il y a aussi une façon de ne pas tenir compte, au fond, du silence qui ne signifie pas nécessairement consentement, comme j'ai voulu aussi le montrer, mais le silence qui peut aussi rendre compte d'une impossibilité de répondre à la situation. En tout cas, c'est ainsi que Lacan définit l'événement traumatique.
Bonjour, je m'appelle Clotilde et je souhaite poser une question à Clotilde Le Guil. Vous parlez du silence du trauma, mais parfois certains sujets ayant subi une effraction traumatique et le stade amnésique passé retombent dans leur mutisme, sont incapables d'évoquer à nouveau l'événement après sa mise à jour en analyse par exemple. Garder le silence n'est-il pas pour le sujet un moyen de défense et de maintien à distance de la répétition de cette angoisse ? Parler donne corps à ce qui était jusqu'alors indicible et peut faire revivre au sujet l'angoisse refoulée. La parole, en tant qu'elle passe par le corps, a aussi un pouvoir d'effraction dans la chair. Elle a un pouvoir bénéfique, mais parfois aussi destructeur. Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie.
Oui, merci Clotilde. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur le silence, la fonction du silence, la fonction aussi du ne pas dire, la fonction du se taire, qui peut permettre de se protéger au fond de ce trou qu'a laissé l'expérience traumatique, en tout cas qui peut permettre de ne pas le réouvrir. Mais au fond, je dirais que la question n'est pas de tout dire ou de dire, disons, à n'importe qui, n'importe comment, mais la question est de savoir déjà à qui on peut adresser cette indicible de l'expérience traumatique et au fond, effectivement, le dire en analyse n'a rien à voir avec en parler avec même ses proches ou avec tout le monde et n'importe qui. Le dire en analyse, c'est l'adresser à un autre qui va pouvoir faire une place en même temps aussi bien secrète à ce qui est dit et qui va pouvoir aussi interpréter ce qui est dit à travers tout ce qui ne peut pas se dire. Donc moi, je ferai une distinction entre le pouce à tout dire, là qui serait du côté d'une pulsion aussi de dire, qui peut être dangereuse pour le sujet et le fragiliser, parce qu'au fond, quand on dit quelque chose d'une expérience traumatique, et bien d'une certaine façon, on se remet aussi entre les mains à celui à qui on le dit, on attend déjà d'être cru. Donc, déjà, il y a cette dimension-là qui, d'une certaine façon, fragilise celui qui tente de dire. Et donc, je distinguerais ce pouce à tout dire absolument d'une tentative d'épeler les effets du traumatique dans le corps, dans un lieu, disons, très protégé, dans un lieu à part, qu'est le lieu du cabinet de l'analyste, qui permet, au fond, de s'extraire aussi de la rumeur du monde et des commentaires de chacun. Poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Je m'appelle Claire. D'abord, je vous remercie pour cette série d'émissions sur le consentement qui s'inscrivent au cœur d'une actualité saisissante, et en particulier l'épisode d'aujourd'hui qui interroge le silence en lien avec l'événement traumatique. J'ai trouvé très intéressant le fait que vous dérouliez le cas de la jeune Emma avec Freud, qui nous permet de comprendre les ressorts qui s'y jouent, et en particulier la répétition avec ce retour sur le lieu de l'événement. Alors ma question serait, est-ce que finalement, dans la démarche littéraire de Neige Sino, on pourrait y lire là aussi un retour sur les lieux de l'événement traumatique, un retour où cette fois elle a déjà renoué avec la parole une première fois auprès de sa mère, mais elle consent ici une nouvelle fois à sortir du silence avec ce récit. Et je me demandais si ce n'était pas lié à cet aspect que vous soulignez avec le Kaema, lorsque vous indiquez que si elle y retourne, c'est pour savoir ce qu'elle a perdu et peut-être pour le récupérer. Vous indiquez aussi avec Lacan qu'il se produit quelque chose qui donne un sens véritable au terme de cession, c'est-à-dire que la victime cède quelque chose. Et je me demandais si Neige Sino, dans ce récit, si on ne se trouvait pas dans ce deuxième aspect, où il s'agit d'un retour qui pourrait s'articuler ici comme une enquête dans la tête de son bourreau, comme elle l'indique dès la première page, et donc une enquête sur les traces de ce qui lui a été extorqué, de ce qu'elle a perdu. Donc finalement, est-ce que c'est en ce sens qu'on pourrait entendre ces mots lorsqu'elle dit que la littérature ne l'a pas sauvée ? C'est-à-dire que si sortir du silence lui a permis de sortir de l'asservissement à son bourreau, de sortir du piège, néanmoins, il demeure un silence sur cette perte radicale qui est inscrite au cœur du trauma et qu'elle a tenté de cerner dans cet après-coup littéraire. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Claire pour ce partage au fond de ce qui a été transmis à partir du Kaema et de Triste Tigre de Neige Sino. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. À travers son écriture, il est question d'un retour. En effet, on peut faire une analogie entre le retour d'Emma sur les lieux du trauma enfant et le retour de Neige Sino avec l'écriture. Sauf qu'il ne s'agit pas tout à fait du même retour, car le retour d'Emma, c'est un retour qui est articulé à une répétition pulsionnelle et qui est un retour qui fait évidemment énigme pour elle quand elle en parle à Freud alors qu'elle a 18 ans. Le retour de Neige Sino sur les lieux du trauma, c'est un retour pour tenter, je dirais, de s'en rappeler au sens aussi de s'en sortir, de s'en extraire. Et j'ai cité ce passage que je trouve très précieux, aussi cliniquement, où elle parle de la difficulté, au fond, à se souvenir, hein, où elle nous dit à quel point il y a une sorte de confusion au niveau de sa propre mémoire pour se souvenir de ce qui lui est exactement arrivé. Et en même temps, elle distingue cette difficulté à se souvenir précisément de la trace ineffaçable du trauma. Donc il y a vraiment ces deux dimensions dans la démarche du retour. Il y a un effort pour essayer de se souvenir de ce qui est arrivé, mais au fond aussi de s'en rappeler, de se rappeler en la déchiffrant, de se rappeler de cette trace ineffaçable pour s'en extraire et pour s'en sortir. Donc moi j'aime bien cette formule qu'elle propose, qui à la fois très radicale, où elle dit « la littérature ne m'a pas sauvée ». En effet, la littérature ne peut pas effacer la trace traumatique, mais néanmoins, on pourrait dire que la littérature, à travers l'écriture en tout cas, produit tout de même un effet de s'en sortir, un effet de pouvoir s'extraire en retrouvant au fond quelque chose de son propre dire sur cette histoire.
Bonjour, je m'appelle Arabella. Je voulais savoir, Neige Sino cherche à se sortir de cette répétition, de ce lien qu'elle dit indéfectible qui la relie à son agresseur. Ce livre, c'est aussi la tentative de raconter, de penser, de relier le traumatisme, mais, dit-elle, on ne peut pas dire l'impensable, même en utilisant des mots crus qui parfois apparaissent dans le livre. Il y a un indicible qui reste, même si t'as l'écriture du livre qui, dit-elle, ne l'a pas sauvé. Et en fait, j'ai l'impression que dans ce livre, elle tente plein de chemins pour, entre guillemets, se reconstruire, continuer de vivre. Et finalement, elle parle des échecs perpétuels de toutes ces tentatives. Et ma question, c'est, est-ce que la psychanalyse
pourrait faire quelque chose pour une personne comme Nefsino, qui ne croit même plus en la capacité des mots à se raconter et à se faire entendre. Voilà ma question. Je vous remercie.
Merci pour votre question et votre remarque sur Triste Tigre. Alors, Nefsino, en effet, n'a pas eu recours à la psychanalyse, elle le dit. Ça n'a pas été sur son chemin, ça n'a peut-être pas été son choix, alors qu'en effet, Vanessa Springora, par exemple, Camille Kouchner aussi, ont pu témoigner de la psychanalyse comme un recours qui leur a permis de dire quelque chose de cette expérience traumatique et de s'en sortir. Ce que je trouve très singulier dans la démarche de Nefsino, puisque finalement chacune a une démarche qui lui est propre et apporte quelque chose d'unique. Hein. Ce qui est très singulier dans sa démarche, c'est qu'au fond, elle s'interroge sur la fonction du procès. Hein. Et ce qu'elle apporte, je trouve, d'inédit, c'est qu'elle montre que ce procès qui a eu lieu et qui a conduit à une condamnation des actes de son beau-père, eh bien ce procès, d'une certaine façon, n'a pas pu répondre non plus à cet impensable de l'événement traumatique qu'elle a vécu. C'est-à-dire que elle nous montre que la justice, quand bien même elle est rendue, n'efface pas les effets du trauma. Et finalement, il y a quelque chose au fond, effectivement, de qui est presque redoublé dans son trauma quand elle nous fait part du fait que son beau-père a plaidé l'amour. Hein, il n'a pas nié, mais il a plaidé l'amour. Et au fond, elle se débat avec ça dans son écriture pour s'interroger sur le mal, pour s'interroger sur la banalité du mal, à la façon de Hannah Arendt, et effectivement, comme vous le rappelez, pour essayer de saisir ce qui se passe dans la tête de celui qui fait d'une enfant de 8 ans sa proie. Donc il me semble qu'elle accède là à une réflexion métaphysique sur ce qu'est le mal. Merci pour vos questions et merci à Delphine Baudet à la technique, à Juliette L'Orphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Josépha Lebrun à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec David Gourion. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast dans l'application Radio France, sur toutes les plateformes ou sur notre page internet L'Inconscient, sur franceinter.fr et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 9 juin pour mon prochain épisode sur « Ne pas céder sur son désir ».